Allora, abbiamo il piacere di avere qui con noi Marc Arò per Fucina Mutte. Volevo chiedere innanzitutto, abbiamo ascoltato ieri il racconto che ha fatto dei lavori precedenti assieme a Genet, quindi ci ha detto che insomma hanno messo in comune le idee, hanno lavorato assieme, poi a un certo momento hanno sentito l'esigenza di prendere ognuno la propria strada. Quindi la domanda nasce da una curiosità, insomma volevo sapere innanzitutto come hanno organizzato a livello proprio pratico questa collaborazione a due, come dopo aver stabilito un po' delle idee di base come lavoravano assieme, e poi volevo capire cos'è che l'ha spinto, qual era la sua idea quando ha iniziato il progetto per questo film. Abbiamo visto che il risultato è molto diverso rispetto ai due film precedenti, quindi questo si nota, si vede, volevo capire a livello personale insomma da cosa parte, ecco.
E per quanto riguarda il piacere di avere qua a mancare
bon ben je reviens
mais non pourquoi vous compreniez la question Oui, alors bonjour, on a écouté ce que vous avez dit à propos des travaux précédents que vous avez développés avec Jean-Pierre Genet. Donc il y a eu une très bonne collaboration qui s'est basée sur certaines exigences. Alors ma première question est la suivante. Premièrement, comment est-ce que vous avez organisé cette collaboration, ce travail à deux? Et puis une deuxième question. On a vu avec ce film Dante 01 que le résultat est très différent par rapport à vos premiers travaux avec Jean-Pierre Genet. Alors comment est-ce que vous avez organisé ce travail, surtout au niveau personnel?
Alors, pour la collaboration avec Jean-Pierre Genet, on dit souvent que ça ressemble un peu à ce qui se passe dans la Cité des Enfants Perdus. Il y a un personnage qui sont deux sœurs siamoises qui à un moment font la cuisine comme ça. Et pour nous, c'était un petit peu la manière de travailler. On avait un genre de plat comme main, et puis chacun venait un peu rajouter quelque chose. Donc forcément, c'est un petit peu anecdotique, mais c'est un peu comme ça. C'était un peu une partie de ping-pong, comme ça, on se renvoyait la balle, et ça donnait les films qu'on a fait. Alors forcément, avec le temps, et puis vu le fait que maintenant nous sommes séparés, chacun a développé des choses qui lui tiennent beaucoup plus personnellement à cœur. Jean-Pierre a donc fait ces magnifiques films avec Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, qui sont des problématiques qui sont plus personnelles à Jean-Pierre, et puis ben, moi j'ai fait donc Dans 01, qui sont des problématiques un peu plus personnelles aussi, à cause de mon intérêt pour la science-fiction, pour l'abstraction, pour les choses un peu plus symboliques, un peu plus mystiques et spirituelles comme ça, quoi.
Abbiamo visto dei chiari riferimenti alla letteratura e ovviamente in questo film, innanzitutto alla Divina Commedia naturalmente, e quindi volevo chiedere qual è il suo rapporto con la tradizione letteraria.
Tradizione bien, nous avons quand nous avons vu la ce dernier film, Dante 01, on a vu des références claires à la littérature et dans ce cas évidemment à la Divine Comédie. Alors quel est votre rapport avec la tradition littéraire ?
La tradition littéraire est quand même la source un peu de toutes les histoires. Moi, c'est vrai que fondamentalement, je suis moins littéraire que visuel, par goût. C'est vrai que c'est vrai que j'ai beaucoup lu, je lis encore beaucoup, et que tout cette tradition, pour moi, il n'y a pas de tradition littéraire, tradition visuelle, tradition sculpturale et tout ça. Il y a toute la culture de l'humanité qui va se traduire à certains moments par de la littérature, par d'autres moments par de la peinture, tout ça. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire le mix un peu de ces différentes inspirations, sources d'inspiration à travers mes films. Je pense que tout créateur fonctionne un peu comme ça. Il voit des films, il écoute des musiques, il lit des livres, il est nourri comme une éponge, un peu comme ça. Et puis à un moment, l'éponge, elle est un peu là, elle est un peu dans la tête, comme ça. Et puis il la presse un peu, et puis il ressort un petit truc et ça donne un film.
Volevo capire anche al di là di questa descrizione caninissima di che cosa viene a livello quasi metaforico, volevo indagare però anche dal punto di vista pratico che cosa succede, ossia abbiamo ben presente il suo trascorso a Metal-Hurlant, abbiamo notato anche questa attenzione che c'è per il paesaggio sonoro che si è creato nel film, questa sorta di immersione sensoriale nella quale portare lo spettatore, quindi tutto questo è presente, si nota. Volevo capire però come avviene il lavoro che lui fa anche dal punto di vista pratico, il lavoro sul suono, il lavoro sulle immagini, come costruisce proprio materialmente passo passo il film.
Je voudrais avoir des informations du point de vue plutôt pratique, c'est-à-dire nous avons très bien écouté, nous savons très bien quel est votre passé, votre rapport avec le métal hurlant, etc. Mais à mon avis, il y a une attention très particulière au paysage sonore qui est présenté, qui est proposé aux spectateurs. Alors du point de vue pratique, comment est-ce que vous organisez votre travail? Comment est-ce que vous travaillez du point de vue et du point de vue du son et du point de vue de l'image? Et donc comment est-ce que vous allez petit à petit construire votre film?
Alors, a priori, je ne donne pas mes recettes. Vous savez, c'est comme les prestidigitateurs ou les grands cuisiniers, ils préfèrent garder leurs petits trucs pour eux, comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est que au départ, il y a une volonté d'ambiance aussi bien visuelle que sonore, et après ça, je vais créer une palette qui va être au niveau des ambiances visuelles, par exemple des couleurs, des choses comme ça, et au niveau du son, au niveau d'une palette de fréquences ou de choses rythmiques ou de grandes nappes. Il y a une volonté comme ça. Pour ce film particulier, j'ai travaillé avec un musicien qui est en plus programmeur, qui s'appelle Eric Wenger, qui a créé un logiciel sur ordinateur qui nous permettait de créer des genres de sons vraiment improbables. C'est un logiciel qui s'appelle Metasynth, et donc nous avons travaillé sur ce logiciel vraiment expérimental que lui-même il composait les nappes et les structures sonores à travers ce logiciel, et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de travailler avec le créateur de ce logiciel. Voilà, c'est ça qui permet cette qualité sonore.
Rispetto a tantissimi film che si vedono, soprattutto di fantascienza, dove c'è un abuso di effetti speciali, di comunque scene girate con i famosi schermi dietro agli attori, eccetera, ho trovato questo film, in questo film un rapporto molto equilibrato con il digitale, molto funzionale alla narrazione. Ecco, quindi volevo capire che cosa rappresenta per lui il digitale, come lo utilizza, come lo vede in rapporto ai lavori che fa.
Mais ça va aller.
Alors par rapport à d'autres films de science-fiction où en effet il y a beaucoup d'effets spéciaux avec l'écran qui est placé derrière les acteurs, dans ce film à mon avis il y a un rapport avec le numérique qui est très équilibré. Je trouve qu'il y a un grand équilibre de ce point de vue. Alors comment est-ce que vous avez utilisé, comment est-ce que vous utilisez normalement le numérique, quel est votre rapport avec le numérique?
Moi, le numérique et les effets spéciaux ne m'intéressent que s'ils sont un peu au service de l'histoire, de ce que j'ai raconté. Ils me servent à donner une certaine crédibilité à mon propos. C'est vrai que si c'est juste les effets numériques pour les effets numériques, ça peut être pas mal, mais c'est pas mon intérêt principal. Là, c'était vraiment de pouvoir permettre aux spectateurs d'essayer de visualiser ce que était censé voir mon personnage principal, mon héros. Donc voilà, tout a été un peu fait dans cet axe-là, dans le fait d'utiliser le numérique pour ce qu'il peut apporter, et puis le tournage réel pour ce qu'il a de, comment ça s'appelle, de plus charnel, de plus sensoriel, parce que c'est vrai qu'il y a tout le temps un petit côté un peu plus abstrait, un peu plus un peu plus abstrait, un peu plus virtuel dans l'image de synthèse par exemple.
Una curiosità di tutt'altro tipo riguarda l'aspetto economico della produzione di questi film. Volevo chiedere una curiosità, insomma, sapere quanto sono costati e come sono stati organizzati i finanziamenti e la produzione.
Une petite curiosité du point de vue économique. Donc nous allons analyser maintenant l'aspect économique de la production de ce film. Donc est-ce qu'on peut parler un peu des coûts, des prix et comment est-ce que vous avez organisé le financement de ce type de travail et même des films précédents, donc pas seulement de celui-ci mais des films précédents.
Merci. Alors bon, pour l'aspect purement financier, tout ça, c'est quand même plutôt le producteur qui s'en occupe. Moi, je suis là à essayer de dépenser l'argent. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ce type de film en France, comme les précédents, ne bénéficie pas vraiment du circuit financier traditionnel français. C'est-à-dire, en France, le financement est quand même principalement fait par la télévision. Et là, on n'a pas eu de financement de télévision, à part une aide de Canal+. Et ce qui a permis vraiment de faire, en tout cas, dans le 01, c'est le fait que, avec Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, j'ai... mon nom est un peu connu, c'est à l'étranger, et une société de distribution qui s'appelle Wild Bunch a pu trouver un peu d'argent dans plein de pays, dans je sais plus entre 30 et 40 pays comme ça, pour financer le film. Et c'est vrai que j'aurais pas eu ce financement de l'étranger, je sais pas si j'aurais pu faire ce film.
Ah, si può dire quanto è costato il film proprio...
Combien a coûté le film, c'est ça que... Ça a coûté 4,7 millions d'euros.
Un altro aspetto da indagare riguarda le protagoniste femminili. Come è stato detto anche per l'eroe principale, che magari è un eroe che non rispecchia lo stereotipo canonico dell'eroe muscoloso, aggressivo, combattente, anche le presenze femminili sono diverse rispetto a quello che si potrebbe immaginare in uno svolgimento standard di un film. Quindi volevo capire come vede la donna, come vede l'immagine femminile, e poi così una notazione personale, mi sembrava abbastanza basagliana la protagonista, la scienziata che sta nella navicella da parecchio tempo, perché si affronta anche il tema comunque della salute, della cura di pazienti che sono sì criminali ma che hanno anche dei problemi comunque psichiatrici, quindi una figura che fa da guida un po' particolare, insomma.
Maintenant, je voudrais toucher un autre aspect qui se réfère aux femmes, surtout la protagoniste, donc à l'aspect de la protagoniste femme. Ce qu'on a dit déjà pour les hommes, en effet, l'héros des films ou du film n'est pas le stéréotype de toujours très musclé, fort, etc. Et la même situation, on la trouve pour la femme. Alors, comment est-ce que vous voyez la femme et comment est-ce que vous vous voyez l'image féminine de vos protagonistes. Et puis, il me semble qu'il y a une relation, étant donné qu'on analyse les thèmes, le thème de la santé, les criminels, mais même du point de vue de la santé psychologique et psychiatrique aussi. Alors, est-ce qu'il y a, je peux citer Basaglia de ce point de vue, je veux dire, est-ce qu'il y a ce point, ce côté, cette analyse psychiatrique aussi?
Alors, ce que je pense, c'est que fondamentalement, ça parle pas ni d'homme ni de femme. Mon film, ça parle de l'être humain. Donc c'est vrai qu'après ils ont un aspect, les prisonniers ont un aspect plutôt masculin parce qu'ils représentent un peu chacun des péchés capitaux. Les femmes peuvent avoir des péchés bien sûr, mais bon, c'était pour mon propos, mais c'est plutôt l'humain. Et c'est vrai que là, chacun des personnages féminins représente aussi plus un concept. Il y en a une par exemple Perséphone qui est plus elle aussi du côté de la compassion, qui peut avoir une figure maternelle comme la Vierge Marie ou des choses de la Madone ou Kuan Yin en Chine, ces genres de déesses de la compassion comme ça, et un autre qui est plus un esprit qu'on est en train de voir un petit peu naître, un esprit peut-on dire purement matérialiste. Et donc c'est plus cette confrontation là qu'une problématique homme-femme ou féminine. Elles aussi sont représentatives plutôt d'une idée, d'un concept, que de la féminité, de choses comme ça, parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de rapport avec la vraie avec la réalité de la féminité dans mon film. C'est quand même plus des symboles, c'est plus un aspect. Elles peuvent à certains moments évoquer le symbolisme yin yang et des choses comme ça, mais c'est quand même tout le temps placé à un niveau symbolique. L'autre aspect psychiatrique, c'est là aussi un genre de background global, mais il n'y a pas vraiment, enfin on pourra toujours faire une analyse psychanalytique du film, hein, même quoi qu'on fasse, on laisse passer beaucoup de choses qui nous dépassent, et donc je suppose qu'il y a une analyse très intéressante psychanalytiquement parlant à faire peut-être dedans 01, mais le propos était pas non plus de faire quelque chose de purement psychanalytique.
L'ultima domanda, ha detto ieri che non sopporta i film nei quali dopo 2 minuti di visione si capisce già perfettamente cosa che sta per succedere, come andrà il film. Sono assolutamente d'accordo, parlava di un ruolo dello spettatore attivo, non semplicemente passivo a subire una cosa già preconfezionata e chiara. Volevo capire se c'è da questo punto di vista un intento, una responsabilità etica da parte del regista che lui sente, oppure se è semplicemente una questione di stile personale.
Hier après-midi, vous avez dit que vous n'aimez pas du tout les films où après 2 minutes, 5 minutes, on sait déjà ce qui va se passer, ce qui va se produire, quelle sera la fin. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, vous avez parlé aussi du rôle du spectateur qui doit être actif et pas passif de ce point de vue. Alors, y a-t-il, d'après vous, une responsabilité éthique du réalisateur ou c'est tout simplement un aspect personnel, un style personnel que vous avez à ce propos?
Je pense que c'est un peu les deux. C'est vrai qu'il y a je pense qu'on ne peut pas se moquer du spectateur. Je pense qu'il faut être honnête. À vrai dire, la manière que j'ai moi de fonctionner, c'est au départ j'ai envie de faire le film que j'aimerais voir. Et donc une fois que j'ai fait ça, j'essaye d'être le plus rigoureux possible pour vraiment faire ce film. Et je me dis que si je le fais le plus sincèrement possible, avec le plus d'empathie possible, il y aura d'autres gens qui pourront y participer et qui pourront créer avec moi cette œuvre collective. Toute la culture humaine est quand même qu'une œuvre collective. Je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé les mots, c'est pas moi qui ai inventé les nombres, c'est quelque chose qui date de notre de nos lointains ancêtres, et c'est et la science-fiction proprement dit est une œuvre collective. Donc je pense qu'il y a ce rapport, cet échange à créer entre le réalisateur et puis le spectateur, ça me semble carrément fondamental. Quand il y a ce côté que je trouve qui se répand un petit peu trop à mon goût de « oh, ils vont pas comprendre », je trouve que c'est très très péjoratif pour le spectateur. Je comprends. Je sais pas, moi je préfère que peut-être certaines personnes comprennent pas mon film, mais qu'ils aient la possibilité de ça les interroge, ou je sais pas, ou qu'ils l'aiment pas, qu'ils le regardent pas. Mais je trouve que j'aimerais pas du tout avoir cet esprit-là vis-à-vis des gens. Moi, je pense que la majeure partie des gens peuvent être intelligents. Après, c'est à moi d'arriver à transmettre le plus universellement possible ce que j'ai dans la tête. Et c'est vrai que dans la communication, faut être le plus clair possible. Mais je pense pas que, avec un a priori comme ça, où on pense que le public est stupide, on peut aller très très loin.
Merci.